Il est 7h10 ici à Paris. Je vous laisse en compagnie de Nathalie Amar.
C'était le journal de Grégory Lesca. Merci, à tout à l'heure.
Avec ATD Quart Monde, agissons ensemble pour la dignité de tous.
Il faut respecter et on sera respecté si on sait parler. On sera reconnu comme des partenaires sociaux. Alors non seulement on défendra nos droits, mais on défendra les droits de tout le monde. Nous pourrons obliger le pays à changer.
La voix du père Joseph Wrezinski, c'est lui à la tête de l'ONG ATD Quart Monde qui est à l'origine de cette journée mondiale du refus de la misère reprise par les Nations Unies. C'est la 30e aujourd'hui. C'est une journée spéciale. Sur RFI, nous entendrons évidemment ceux qui vivent au quotidien cette grande pauvreté en Afrique, dans le monde. Bruno Tardieu, je vous salue à nouveau. Bonjour.
Bonjour Nathalie Amar.
Vous nous direz comment chez ATD on appréhende ce combat contre la pauvreté. Je rappelle que vous dirigez le Centre International Joseph Wrezinski et que vous êtes responsable de la campagne Stop Pauvreté d'ATD Quart Monde. Bruno Tardieu, le constat aujourd'hui, 30 ans après cette première journée du refus de la misère, quel est-il ? On a fait reculer un peu la pauvreté ?
Je ne pense pas qu'on ait fait reculer la pauvreté. Je pense que la grande pauvreté s'est plutôt durcie. Les regards se sont plutôt durcis. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est que à la suite de Joseph Wrezinski et du fait qu'il ait osé dire ce qu'il a dit, oser dire l'humiliation de son enfance, parce qu'il est lui-même né dans la misère. Oser dire que sa mère n'avait que des bienfaiteurs, elle n'avait pas d'amis. C'est toujours les bienfaiteurs qui parlent au nom des personnes en situation de pauvreté. Et ça, c'est en train de changer.
Il a porté la voix des plus pauvres.
Il l'a porté, il l'a libéré. Il a libéré la parole. Quand notre déléguée générale adjointe maintenant, Martine Lecor, dit que quand elle était petite à l'école, on lui disait qu'elle était tellement bête, parce qu'elle venait du bidonville, elle était tellement bête qu'elle serait juste bonne à garder un troupeau de vaches. Et encore pas trop de vaches, elle en tremble encore. 50 ans après, elle en tremble encore. C'est ça la misère, c'est ça la violence de la misère, c'est d'être sans arrêt jugé, rabaissé, stigmatisé. Et du coup, les gens dans la misère se taisent. Et la chance aujourd'hui, c'est qu'ils commencent à sortir du silence, ils commencent à nous apporter leur éclairage, et du coup, on va devenir moins bêtes ensemble pour lutter contre la misère.
Et en même temps, vous disiez, ça s'est durci, le discours anti-pauvre, entre guillemets, s'est durci à l'échelle nationale, mais aussi peut-être internationale.
Probablement, il y a toujours une arrogance.
Sous quel effet ?
Considérable. Pardon ?
Sous quel effet ce discours s'est-il durci ?
Je n'en sais rien. C'est peut-être aussi le fait que des gens sortent du silence. Par exemple, en France, il y a de plus en plus de refus de CMU. Mais quand il n'y avait pas la
couverture CMU, maladie universelle.
Pardon,
donc.
Couverture maladie universelle. Mais quand il n'y avait pas la CMU, les pauvres allaient se faire soigner dans les dispensaires pour pauvres. Donc la question ne se posait même pas. Le fait qu'un peuple sorte du silence, le fait que des droits avancent, provoque des réactions. Le fait que les gens commencent à dire « on nous traite, on nous trie ». Il y a une autre très très grande violence, c'est la violence du tri. Les objectifs du millénaire pour le développement avaient proposé qu'on sorte 50% des pauvres de la pauvreté. Mais vous vous imaginez, nous, dans un quartier, dire aux gens, bon, il y en a 50% qui vont s'en sortir.
Alors les objectifs du millénaire, c'est ceux qui avaient été adoptés en 2000 à horizon 2015, c'est
voilà.
Ça ? Et qui avaient donc une approche un peu comptable, finalement, de la pauvreté. De dire, on va sortir une personne sur deux et puis bah, peut-être tant pis pour les autres, finalement.
Voilà.
C'est ça
et
qui était entendu.
C'est ça qui était entendu et je pense que les politiques se rendent pas compte que quand ils disent des choses pareilles, les personnes en situation de pauvreté les entendent aussi. On parle toujours d'eux comme d'objets de charité, d'objets de politique. Mais ils les entendent. Et donc là, c'est un message d'une grande violence. Et en évaluant ces objectifs du millénaire pour le développement, oui, je dis bien, on l'a évalué avec des personnes en situation de pauvreté, on l'a évalué avec la Confédération internationale des syndicats, avec Social Watch, et on a prouvé que ce genre d'objectif était absolument violent et divisait les pauvres. La grande question aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à diviser les gens. Les pauvres d'ici contre les pauvres d'ailleurs, les pauvres comme ci contre les pauvres comme ça.
Alors le nouveau mot d'ordre aujourd'hui, Bruno Tardieu, c'est ne laisser personne de côté, c'est-à-dire que c'est plus inclusif, pour employer un mot un peu à la mode, un peu dévoyé.
Oui, l'ONU a décidé pour les objectifs du développement durable d'avoir comme principe principal, ne laisser personne de côté. Et ça, c'est dans les gènes d'ATD Quart Monde. Dès le début, ATD Quart Monde, avec le père Wrezinski, a fait en sorte de ne laisser personne derrière, d'inclure tout le monde, parce que ça permet de remettre en cause ce principe qu'on croit être une loi naturelle. Il y aura toujours des gens abandonnés.
Mais est-ce qu'on ne rend pas, du coup, l'objectif encore plus loin, plus lointain, plus difficile à atteindre ?
Alors, c'est ce qu'on nous a beaucoup opposé quand on a critiqué cet objectif. Mais si on ne pose pas cet objectif, on n'aura pas la mobilisation des gens très pauvres. Un objectif qui dit on va trier la moitié des gens fait peur aux gens en situation de pauvreté. Ils font qu'ils se cachent, ils font que la violence se crée entre les gens. Et en réalité, si on ne dit pas c'est pour tout le monde, alors les gens en situation de pauvreté sont certains. Ça sera pas pour eux, et ils se démobilisent. La question clé, c'est que les gens en situation de pauvreté doivent se mobiliser, ils doivent oser sortir du silence, apporter leur intelligence. C'est ça la chance d'aujourd'hui.
Bruno Tardieu, on va retrouver un court extrait de la voix du père Wresinski. Justement, il explique sa vision de la lutte contre la pauvreté, lui, l'enfant de la pauvreté.
Je ne proposais pas du tout une action de charité, une action, je dirais, de distribution de biens, étant donné que c'était ce dont j'avais le plus souffert dans mon enfance. Je croyais absolument nécessaire de donner à ces hommes qui m'entouraient, à ces gosses qui étaient là, ce que j'appelais les possibilités de leur libération par le savoir, par la connaissance.
Voilà, pas la charité, surtout pas, hein, dit le père Wresinski, mais un travail au plus près de chacun pour lui redonner sa dignité. Comment ça se traduit au quotidien dans l'action d'ATD Quart-Monde ?
Ce qu'il dit là, c'est par le savoir, par la connaissance. On a entendu que le président Macron va accueillir aujourd'hui des experts, mais en aucun moment il a été d'accord de recevoir des gens en situation de pauvreté. Et nous, on dit que tant qu'il ne fait pas ça, il ne fera aucun plan valable. C'est l'intelligence, c'est le savoir des très pauvres qui compte pour lutter contre la pauvreté, avec le savoir des autres. Et donc, effectivement, le père Joseph a beaucoup souffert de la charité dans son enfance. Et on disait tout fort quand il allait chez le médecin, « Ah, ceux du bureau de bienfaisance ne payent pas !» Et il avait encore honte des années après de ça. Donc la charité peut être bonne dans un certain esprit, mais pas bonne du tout si elle humilie. On dit en Afrique que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et ça, c'est très important. La clé, c'est de libérer par la connaissance. C'est des bibliothèques de rue, c'est des universités populaires, c'est des clubs du savoir. C'est le croisement des savoirs et c'est libérer ces potentiels fantastiques qui sont dans les enfants pauvres que j'ai accompagnés pendant des années dans les rues de New York ou les rues de Créteil ou partout. Les enfants, les jeunes très pauvres ont une immense intelligence à offrir au monde ainsi que leurs parents.
Il est 7h17 à Paris. On va prendre à présent la direction de Manille, la capitale des Philippines. Bonjour Marianne Dardar.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante sur place. Alors chez vous, cette journée du 17 octobre est déjà bien entamée. Le coup d'envoi des manifestations a été donné. Il y a eu une cérémonie dans un grand parc de Manille. Alors les Philippines, après la Birmanie et le Laos, arrivent au troisième rang des pays d'Asie du Sud-Est pour le nombre d'habitants vivant en dessous du seuil de pauvreté. Quelle est la situation exactement chez vous ?
Eh bien, aux Philippines, une personne sur cinq est pauvre, selon les données de 2015, contre une sur quatre à peine 3 ans auparavant. Le recul de la pauvreté a été net sous le précédent gouvernement philippin, avec presque 2 millions de pauvres en moins, selon la Banque mondiale. Dans les faits, pourtant, 46% des Philippins, soit la moitié, se considèrent toujours pauvres, selon l'un des principaux instituts de sondage de l'archipel. La faute à un partage peu équitable des richesses, malgré une croissance économique spectaculaire parmi les plus rapides du continent. Un dernier chiffre permet de se rendre compte de cet écart de richesse. Plus de 10% de la population gagne moins de 2 dollars par jour, selon la Banque asiatique de développement, dont le siège est situé ici, à Manille.
Alors, ATD Quart-Monde est présente aux Philippines depuis 30 ans. Marianne, comment l'ONG vient-elle concrètement en aide aux pauvres du pays ?
ATD Quart-Monde mène principalement des programmes d'alphabétisation appelés bibliothèques de rue, vous en avez parlé, et qui existent ailleurs dans d'autres pays. À Manille, ATD Quart-Monde a commencé son action auprès de familles vivant sous un pont et dont une partie a été depuis relogée. L'autre endroit, c'est le plus grand cimetière de Manille, où vivent plus de 10 000 personnes, faute de logement. Un pont et un cimetière, ces deux lieux sont représentatifs des problèmes de logement au cœur de l'extrême pauvreté d'une partie de la population.
Alors récemment, les Nations Unies ont accusé le président Duterte de mener une guerre anti-drogue qui tue en fait surtout les plus pauvres. Lui, de son côté, il présente un projet pour réduire la pauvreté de 25% en 3 ans. Quel bilan peut-on faire, Marianne, de la politique de lutte contre la pauvreté après un an et demi de Duterte au pouvoir ?
Alors, vous l'avez dit, réduire la pauvreté de 25% en 3 ans, c'est la volonté très ambitieuse affichée par Rodrigo Duterte qui, dans un discours en juin dernier, rêvait de transformer, je cite, son pays en une société prospère avec une classe moyenne prédominante. Rodrigo Duterte a depuis lancé des chantiers sur plusieurs fronts, celui des infrastructures par exemple, mais sans fixer de vraies priorités dans sa politique au-delà de sa guerre contre le narcotrafic ou contre le terrorisme. Pour l'instant, on constate donc peu d'actions sur le terrain, hormis peut-être cette loi, la promulgation de cette loi rendant gratuit l'enseignement supérieur pour plus d'un million d'étudiants, une mesure qui profite toutefois peu aux plus pauvres qui trop rarement accèdent à ce niveau d'études.
Marianne Dardar avec nous en direct de Manille, la capitale des Philippines. Bruno Tardieu, votre réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre. Il y a effectivement ce souci de faire accéder un certain nombre de personnes à la classe moyenne, mais parfois c'est peut-être au prix justement de ceux qui sont dans la très grande pauvreté. On les sacrifie finalement.
C'est souvent une tentation des politiques en effet. C'est une tentation électoraliste et c'est malheureux parce que au fond les forces progressives ne réussiront que si les gens du monde populaire et les gens les plus pauvres s'allient. Dans l'histoire, quand elles se sont divisées, c'est toujours retombé sur les plus pauvres. Et ce qui est important aux Philippines, c'est qu'il y a des bonnes relations aussi avec les élus de la ville de Manille. Et je voudrais fait commenter ce qu'a dit votre correspondante, c'est que les gens qui étaient sous le pont ont été relogés en effet, mais relogés dans des conditions absolument non réfléchies avec les populations. C'est-à-dire qu'un beau jour, une fondation a donné des sous, ils ont été relogés très loin de Manille, dans des maisons toutes pareilles, il n'y avait pas de travail, pas d'école. Et au bout de quelques temps, les gens sont revenus sous le pont pour retourner à l'école, pour retourner au travail.
Donc une fois encore, on a décidé d'en haut, sans eux, sans les entendre.
Oui. Et ce qui est très important, c'est que du coup, on dit aux gens, mais ils sont non coopératifs. C'est une des grandes formes de la violence de la misère. La première, c'est de mépriser les gens. La deuxième, c'est de les trier. La troisième, c'est de décider à leur place. Et après dire, mais enfin, vous faites pas ce qu'on vous dit. Et donc là, on a pu faire valoir ça auprès des pouvoirs publics. Ils ont été très intéressés. Il y a une série de concertations qui font que le relogement se fait maintenant de manière différente, en réfléchissant et en mettant le plus important pour les familles, qui est l'école.
La 30e journée mondiale du refus de la misère, journée spéciale, vous l'entendez sur RFI. Refuser la misère, c'est d'abord évidemment s'occuper des tout-petits. À Port-au-Prince, dans l'un des quartiers les plus pauvres de la capitale haïtienne, le programme d'ATD Bébé Bienvenue accompagne chaque année plus de 160 enfants âgés de 0 à 3 ans pour aider à leur développement, pour lutter contre la malnutrition. C'est un reportage d'Amélie Baron.
Femmes et enfants se serrent sur les tapis de la salle du centre d'ATD Carmonde dans le quartier de Martissant. Tous participent aujourd'hui à l'atelier Bébé Bienvenue. Louise amène à Liona Joseph, une des animatrices du programme, nous en explique la genèse.
C'est après un constat que
le programme est né d'un constat réalisé par le mouvement ATD Carmonde. Dans la zone de Grand Ravine, beaucoup d'enfants mouraient de malnutrition et les règles d'hygiène n'étaient pas respectées. Alors nous avons commencé cette activité.
Marie-Michel participe au programme avec son fils Isaac, âgé de 2 ans, et elle profite pleinement de chaque séance.
Ils nous ont montré comment donner à nos enfants des repas équilibrés et aussi comment préparer du sirop à donner en cas de diarrhée. On a aussi une carte d'assurance santé. Quand on arrive à Bébé Bienvenue, on se détend, on est stimulé par les activités. Après, on rentre chez nous, heureuse.
Comme le confirme Louise Amène, si le programme s'adresse aux enfants en bas âge, il se veut également fédérateur de cette zone très sensible de la ville.
On a réuni tout le monde. Entre quartiers, il y a beaucoup de problèmes, il y a des fusillades, des morts. Notre but à ATD Carmonde est d'unir les gens, d'être un mouvement rassembleur et c'est ainsi que le programme Bébé Bienvenue est parvenu à mettre ensemble des gens de 5 quartiers différents de la zone.
C'est justement cette non-discrimination que Laura, une bénéficiaire, apprécie particulièrement.
Chaque personne ici vient d'un quartier différent, mais à l'instant où on est ici, on ne fait plus qu'un seul. Quelle que soit la maman qui a un problème, l'une peut parler avec l'autre, demander conseil, parce que nous sommes une seule famille. Il y avait beaucoup de choses qu'on ignorait. L'activité nous a permis d'apprendre et grâce à ça, nos enfants ne sont plus si souvent malades.
pas mal à Dzouva. Une amélioration de la situation sanitaire qui se diffuse dans le quartier de Martissant. L'animatrice Louise Amène à Liona Joseph peut en témoigner.
Action, nous parlons d'activités communautaires.
Parce que... On dit que notre action est communautaire parce que la formation que les gens suivent ici la transmettent dans leur quartier. Leurs voisins, voisines peuvent avoir des problèmes. Or ici, ils apprennent que telle maladie donne tel ou tel symptôme. Un des parents avait un voisin qui toussait beaucoup. Il lui a conseillé d'aller consulter. Après dépistage, il s'est trouvé que le voisin avait la tuberculose.
Dépistage et j'étais arrivé que les parents
Le travail d'ATD Carmonde pour améliorer les conditions sanitaires en Haïti porte ses fruits, mais l'ampleur du problème est immense. Selon la récente étude de la FAO, près de la moitié de la population nationale souffre de malnutrition. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Bruno Tardieu, on a ici, avec ce reportage à Port-au-Prince, une illustration de ce socle de protection sociale qu'ATD réclame à l'échelle du monde, c'est ça ?
Absolument, et on ne le réclame pas tout seul. On est très fiers que la Confédération mondiale des syndicats, internationale des syndicats, se soit joint à cet appel à l'action. Je vous invite tous à signer cet appel à l'action sur le site stoppauvreté.org. Là, c'est un exemple où on montre que le socle de protection sociale, donc avec très, très, très petite somme, les gens ont une carte santé, ils peuvent se soigner. Dans des zones où on dit c'est impossible d'avoir la protection sociale parce que l'État est trop fragile, c'est faux, mais c'est possible parce que c'est un développement communautaire. Ça fait très plaisir d'entendre Louise Amène, et que je salue bien, dire qu'il faut le développement communautaire et que c'est la manière d'être avec tous.
La priorité, c'est à se dire que les enfants doivent manger. Donc ça arrive très souvent à tous parents de personnes en précarité qui ne mangent pas du tout, pour que les enfants puissent manger correctement déjà. On se débrouille pour acheter ce que l'on peut avec ce qu'on a et de manger aussi sainement que possible. Mais là, c'est très difficile par contre. Ben, on fait les fins de marché où c'est beaucoup moins cher. On cuisine nous-mêmes surtout. Et puis, quelquefois, il y a l'aide alimentaire.
Voilà, Micheline Adopati, témoignage recueilli par Laurence Théo. On se trouve là, Bruno Tardieu, en France, hein, dans un pays dit riche, près de 9% de la population en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 1015 euros par mois. Ça peut paraître énorme, hein, pour certains de ceux qui nous écoutent loin, mais finalement, pour vivre en France, compte tenu des loyers, des charges, etc., c'est très très peu. La grande pauvreté en France, aujourd'hui, c'est aussi une réalité.
Oui, et Claire Hédon, la présidente d'ATD Carmonde pour la France, rappelait il n'y a pas longtemps que c'est 2 300 000 personnes qui vivent avec moins de 670 euros par mois. Donc la grande pauvreté a augmenté. Et ce qu'explique Micheline Adobati, c'est qu'en plus, c'est la honte. Non seulement c'est difficile de tenir les deux bouts, mais c'est la honte. Et en permanence, les médias français vous disent, voilà, tous les Français sont partis en vacances. On vous dit, va falloir chercher ça sur Internet. Alors que 40% des Français ne partent pas en vacances. Il y a un très grand nombre d'enfants qui n'ont pas Internet à la maison. Et donc, c'est pas seulement la difficulté, c'est le fait qu'on ignore et qu'on nie cette difficulté, que du coup, les gens se sentent absolument pas reconnus dans leur courage et leur combat. C'est ça la difficulté de la misère dans les pays riches, en Angleterre, aux États-Unis, en France.
Alors, puisque vous avez cité, Bruno Tardieu, le nom de Claire Hédon, on va bien sûr le rappeler à nos auditeurs. Hein. C'est une voix qu'ils connaissent extrêmement bien ici, sur RFI, la voix de Priorité Santé pendant des années. On a 30 secondes pour évoquer ce rendez-vous aujourd'hui chez Emmanuel Macron, déjeuner avec les acteurs de la lutte contre l'exclusion, comme on dit. Qu'en attendez-vous précisément ? Vous nous avez dit tout à l'heure, tant qu'il ne recevra pas un vrai pauvre, entre guillemets, il n'aura rien compris. Qu'attendez-vous de ce rendez-vous ? Qu'attendez-vous du gouvernement ?
Donc, Claire Hédon et mon mouvement ATD Carmonde de France en attend beaucoup, bien sûr. On a toujours été pour la collaboration et pour le travail avec les gouvernements, même si on n'est pas d'accord avec eux sur beaucoup de points, on veut travailler ensemble. Par contre, nous demandons vraiment qu'ils reçoivent une délégation, pas seulement une personne, mais une délégation de personnes en situation de pauvreté, pour vraiment réfléchir et pas faire des mesurettes.
Merci Bruno Tardieu. On vous retrouve dans quelques instants après la pause, une pause de publicité sur RFI, bientôt 7h30. Il est 7h30 à Paris, 5h30 à Conakry et en temps universel.
La 30e journée mondiale du refus de la misère, organisée par les Nations Unies en partenariat avec ATD Carmonde, le quotidien La Croix et RFI. Nathalie Amar.
Bon réveil à vous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute de Radio France Internationale. C'est une journée spéciale sur RFI, 30e journée du refus de la misère. Alors vous le savez aussi, si vous nous écoutez depuis ce matin, un mouvement de grève affecte les antennes de Radio France Internationale et d'un certain nombre d'autres stations du service public de l'audiovisuel. En conséquence, cette émission spéciale s'achèvera un petit peu avant 8h.
Le 17 octobre, refusez la misère avec ceux qui la subissent.
Non, on se met pas en colère. La colère est comme un silence. C'est un silence qu'on a en soi, dans l'âme. C'est comme la nuit. Et pourtant, on aimerait voir le jour.
Et d'ici 8h, nous irons notamment à Bangui, la République centrafricaine, où violence et pauvreté se conjuguent depuis des décennies. Nous serons en ligne avec Béatrice Epaille, députée, présidente de la fondation La Voix du Cœur, qui accueille les enfants des rues. Bruno Tardieu est toujours à mes côtés, responsable chez ATD Carmonde de la campagne internationale Stop Pauvreté. Un mot peut-être avant de rejoindre le Sénégal de cette campagne internationale que vous dirigez.
Écoutez, la chance que vous nous donnez, c'est que toutes ces voix qui s'élèvent depuis déjà des années puissent être entendues du grand public. En fait, on dit souvent que les pauvres sont sans voix, c'est faux. Les pauvres ont une voix, ils parlent, mais simplement c'est l'écoute qui n'est pas là. Les gens nous disent souvent, ce qui nous aide le plus, c'est qu'on nous croit. Et grâce à cette campagne, grâce à vous tous qui nous écoutez, vous pouvez rejoindre cette campagne en allant sur le site Stop Pauvreté, en lisant des centaines d'histoires de changement et en signant cet appel à l'action que Béatrice Epaille a signé elle-même il y a quelques mois et en mettant votre propre message, votre propre idée de la manière dont vous voulez lutter contre la pauvreté. C'est une grande mosaïque où on s'affiche ensemble à vouloir dire Stop Pauvreté, signé à la fois par l'ambassadeur de France à l'ONU, par l'humoriste qui a fait le chat, dont son nom m'échappe.
Joanne Sfar peut-être.
Voilà.
Et puis Philippe Gueluc, pardon.
Philippe Gueluc, voilà, par tout un tas de gens. Et vous êtes tous invités à le signer, à dire votre message pour dire que vous refusez la misère.
Et l'idée, Bruno Tardieu, c'est quoi? C'est de reconnecter les grandes institutions, les gens qui sont dans leur bureau, peut-être assez confortables, avec la réalité de terrain que vous constatez?
Oui, c'est ça, mais je pense que personne n'est tout à fait confortable dans son bureau. Les gens, nous, on est frappés de voir la sorte de désespérance que les gens dans la société ressentent face à la misère. Or, les gens qui vivent la misère n'ont pas cette désespérance. On est désespéré parce qu'on se dit, il n'y a rien à faire. On se dit, les gens pauvres, bah, c'est des objets, c'est un puits sans fond, on n'arrête pas de donner et ça continue. Mais c'est faux, c'est pas des bûches, comme disait Brzezinski. C'est des gens qui pensent, et si on se mettait à penser ensemble, si on se mettait à travailler ensemble, alors on invente des choses extraordinaires. On a déjà inventé des choses extraordinaires. La couverture maladie universelle, on l'a inventée grâce à des gens comme Micheline Adobati, qu'on a entendu tout à l'heure. Avec des médecins, bien sûr, mais aussi avec des personnes en situation de pauvreté, on peut inventer une société qui laisse personne de côté.
Et puis, il y a des expériences, j'allais dire, à très petite échelle, comme la zone zéro chômage longue durée. Alors, ça concerne très peu de gens, finalement, dans un territoire très réduit, mais c'est une expérimentation de ce qui pourrait être fait plus largement ailleurs.
Absolument, mais il y a une loi de la République qui permet les expérimentations, c'est très intéressant. On a obtenu une loi pour expérimenter que dans 10 territoires en France, eh bien, on fait sans sorte qu'il n'y ait plus de chômeurs de longue durée. On rencontre chacun, on cherche les talents de chacun, les aspirations de chacun et on trouve un emploi à chacun. Mais il y a aussi des expérimentations comme celles qu'on a entendues de Haïti qui sont des inspirations pour des grandes politiques. Nous sommes un laboratoire d'invention sociale avec les personnes en situation de pauvreté pour inspirer les politiques publiques.
Il est 5h34 à Dakar où nous rejoignons tout de suite Guillaume Thibault. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Correspondant d'RFI dans la capitale sénégalaise, le Sénégal, où ATD travaille depuis 35 ans, notamment à Dakar, dans sa banlieue. Alors, vous avez pu le constater, Guillaume, l'organisation tente d'aider, d'appuyer toutes les tranches de la population, des jeunes enfants aux doyens.
Exactement, avec une idée, une fois de plus, très simple, s'implanter dans les quartiers, vivre, travailler, associer ceux qui souffrent pour trouver des solutions. On va prendre un exemple tout simple, on était hier à Pikin, c'est la grande banlieue de Dakar, qui est connue malheureusement pour ses inondations répétées et toutes les conséquences qui vont avec, l'habitat insalubre, les maladies, l'activité économique qui est très faible. Il y a 20 ans, ATD Carmonde a commencé à travailler dans ce secteur. Et elle est tombée sur Marcel Barella, il est pharmacien, et il est devenu, comme tant d'autres, un des rouages essentiels pour ATD Carmonde.
En 98, j'ai connu un vieux qui m'a présenté le mouvement ATD Carmonde. À partir de ce jour, j'ai collaboré avec eux sur les inondations, sur la pauvreté. Oh, ça a beaucoup changé parce qu'ici, même à pareille époque, bien que la pluie est presque finie, on ne pouvait pas passer ici. Et avec toutes les maladies que ça apportait. Donc, je veux dire que ATD Quart Monde a donné aux autorités une idée de ce qu'on pouvait faire pour soulager la souffrance de la population.
Voilà. Voilà, et dans ces quartiers populaires de Dakar, Guillaume, le mode de fonctionnement d'ATD, c'est ça, hein, c'est s'associer, réfléchir, travailler collectivement.
Exactement, avec ce défi inscrit dans les gènes du mouvement, sans doute l'un des plus difficiles, sortir de la pauvreté. On a rencontré hier Daniel Marino qui travaille pour ATD, il est au Sénégal depuis seulement 2 ans, dit-il. Et on lui a posé justement cette question, comment aider quelqu'un à changer de cap, à sortir de la misère? Quel mot utilise-t-il?
C'est de façon anodine ou anecdotique, parce qu'on se donne toujours des nouvelles ici à Dakar quand on rencontre les gens. Donc là, on dit « Ah, comment va telle personne ?» Et on dit « Ah, cette personne va bien, mais ah, elle a une douleur à une jambe. » Et là, je me souviens d'une femme qui a vraiment une vie difficile et qui dit « Ah, il faut prendre telle feuille de tel arbre, tu le fais chauffer et tu frottes la jambe comme ça. » J'ai sauté là-dessus pour dire « Mais voilà, ce que tu sais là, c'est un trésor, tu vois, c'est précieux. Tu sais quelque chose, ce que toi, tu as, est utile, peut enrichir quelqu'un d'autre. »
Le pouvoir des mots, Nathalie, une fois de plus, quelques méthodes, hein, on l'entend ici, utilisées au quotidien par ATD au Sénégal, où la situation sur la pauvreté est difficile, il y a des problèmes, là, les enfants dans les rues, il y a ces quartiers qui sont en train de se remplir parce que l'exode rural est très très fort. En tout cas, cette journée, l'anniversaire de ses 30 ans, va se dérouler au parc de Han, avec un ambitieux mélange, on peut le dire, entre cérémonies officielles, théâtre de rue, débat, avec par exemple un débat public entre des jeunes qui sont prêts à quitter le Sénégal, à tenter l'aventure à travers le désert pour survivre, et d'autres qui, au contraire, veulent vivre ici, chez eux, au Sénégal. L'espace est en tout cas ouvert, gratuit. Parc de Han, c'est entre 9h et 16h toute la journée.
Et on suivra ces cérémonies avec vous, Guillaume Thibault, notamment à la mi-journée dans le journal de Charlotte Tidrac, Afrique Midi. C'est aussi ça l'enjeu, Bruno Tardieu, empêcher les jeunes de partir, faire qu'ils soient bien là où ils sont nés.
On va empêcher aucun jeune de faire quoi que ce soit. Je pense que l'immigration a toujours été une force dans l'histoire de l'humanité. Et c'est ça qui permet aussi à l'humanité de pas exploser. C'est les immigrés qui envoient le plus d'argent au pays. Bien plus que l'aide internationale. Donc, la question, c'est pas d'empêcher qui que ce soit. La question, c'est qu'ils puissent débattre, qu'ils puissent réfléchir et qu'ils puissent en effet se poser des dilemmes que je serais bien incapable moi-même les conseiller là-dessus. Mais bien des anciens chez nous disent qu'ils sont heureux quand les jeunes peuvent réfléchir. Et vous savez, les jeunes ont beaucoup travaillé pour cette affaire d'assainissement dans les quartiers dont on parlait. Et c'est très symbolique parce qu'il y a parfois des gens qui amènent des grosses pompes et qui vident toute l'eau. Un quartier qui a l'eau, qui reste pendant des mois, c'est un quartier où les enfants meurent à cause de la... Il y a 90, toutes les 90 secondes, un enfant meurt d'une maladie de l'eau dans le monde. Et ce qui est important sur cette histoire de l'eau, c'est les brigades contre les inondations que les jeunes ont fait. Ils ont découvert que quand quelqu'un avait les moyens de faire un petit barrage pour se protéger, ça crée l'inondation. C'est symbolique d'arriver à convaincre les plus riches d'enlever leur petit barrage pour que l'eau coule. Et quelqu'un disait, il faut accepter qu'une partie de la misère passe devant ma maison pour que l'eau coule. Et donc, ça ne peut être que des solutions communautaires. C'est pas les grosses pompes et les millions. Bien sûr, il en faut des millions. Mais c'est les solutions communautaires que des jeunes comme cela, quand ils découvrent qu'ils ont une vraie place dans leur pays, qu'ils peuvent changer leur pays, alors ils ont aussi beaucoup envie d'y rester.
Mais la question, Bruno Tardieu, peut-être si on veut changer d'échelle et faire que... un jour, on gagne quand même ce combat contre la pauvreté, c'est comment intéresser les gouvernements, les décideurs à ces choses qui se font très localement, j'allais dire très, très simplement, très naturellement.
Oui, mais cette brigade contre les inondations a intéressé le gouvernement, a intéressé l'AFD, a intéressé des gens comme l'UNICEF. L'UNICEF, par exemple, a complètement changé sa politique. Il y a un certain nombre d'années, ils se sont rendus compte qu'ils ne touchaient pas les enfants les plus pauvres. Et c'est par des exemples comme celui du Haïti, du Guatemala, du Burkina Faso, qu'ils ont compris qu'il fallait faire autrement pour atteindre les plus pauvres. Et quand les Nations Unies, la Banque mondiale, etc., se donnent comme objectif du millénaire pour le développement, ne laisser personne derrière, c'est des politiques concrètes qui changent derrière. Et quand les gouvernements, comme le Guatemala, acceptent que les enfants non inscrits sur les listes sur l'état civil puisse aller à l'école, c'est des changements à grande échelle qui se gagnent parce qu'on prouve que c'est possible dans des échelles humaines.
RFI, 8h-20 à Paris, 1h de moins à Bangui, en Centrafrique.
Le 17 octobre, 30e journée mondiale du refus de la misère.
Il faut respecter, et on sera respecté si on sait parler. On sera reconnu comme des partenaires sociaux. Alors non seulement on défendra nos droits, mais on défendra les droits de tout le monde. Nous pourrons obliger le pays à changer.
Et on se tourne à présent vers Dominique Dezonnet, bonjour.
Bonjour Nathalie.
La solidarité, le refus de la misère, on l'entend hein, depuis tout à l'heure, les associations, ATD, d'autres bien sûr, ils travaillent chaque jour. Depuis quelques années Dominique, des applications sur smartphone ont vu le jour, que ce soit pour offrir un toit de fortune, un repas, un peu de chaleur humaine même, pourquoi pas.
Oui, et parmi toutes ces technologies web qualifiées de positives, nous nous intéressons aujourd'hui à Entourage, une plateforme numérique qui est à la fois un réseau, une communauté et une application créée par Jean-Marc Potvin, un homme d'affaires français et pionnier de la net économie. Le réseau Entourage fonctionne à l'inverse de Facebook en favorisant des rencontres réelles et de proximité entre des personnes qui d'habitude ne se croisent et ne croisent jamais leur regard.
Tiens, c'est le mec qui est toujours là. J'aurais aimé lui parler un peu, mais c'est trop nul, je sais même pas quoi lui dire.
Il y a plusieurs modes en fait. Le premier, c'est que déjà 5% de nos utilisateurs sont des personnes sans abri elles-mêmes, potentiellement pour se constituer un réseau et faire des actions avec les gens.
Pour sortir de la rue, c'est compliqué. Le plus important, c'est l'entourage.
Un deuxième mode, c'est vous n'osez pas rentrer en relation avec des personnes sans abri et vous allez rejoindre un entourage qui a été créé par un de vos voisins. Par exemple, on fête l'anniversaire d'une personne sans abri et à ce moment-là, je rejoins cet événement, et ce qui permet en fait par la médiation d'autres de rentrer en relation avec ces personnes et peut-être tout seul, j'ose pas.
Si je lui fais un sourire, il va penser que j'ai pitié de lui.
Et le troisième mode, vous établissez un lien avec la personne sans abri. Et là, l'appli, elle va vous aider dans une phase 2. Une fois que ce lien a été créé, vous rendrez compte que cette personne a besoin d'aide, par exemple, pour une démarche. Peut-être elle se sent seule aujourd'hui, elle aimerait bien faire un cinéma. Entourage, on n'est pas un réseau d'aide du riverain vers des personnes sans abri. On est un réseau de relations d'égal à égal entre voisins, avec ou sans abri.
Bon, on m'a aidé. Tout seul, j'aurais jamais pu m'en sortir. Jamais.
Voilà, Entourage s'est construit, Dominique, avec l'aide des sans-abri et des associations qui luttent contre la pauvreté pour répondre exactement aux besoins des plus démunis.
Oui, le réseau qui est d'ailleurs soutenu par ATD Quart-Monde et bien d'autres ONG permet, par exemple, aux bénévoles de planifier leur maraude ou leur déplacement sur le terrain. L'appli a été téléchargée plus de 33 000 fois. À ce jour, l'association revendique 22 000 comptes sur son réseau social et plus de 1000 actions de solidarité qui ont été réalisées à son initiative. Fin octobre, Entourage lancera un nouveau site simplecombonjour.org qui sera dédié à la grande exclusion. Il a été élaboré par des professionnels du secteur, mais surtout par les personnes de la rue. La plateforme web diffusera des vidéos, des interviews, des témoignages et un guide pédagogique pour vous aider non seulement à changer votre regard sur la pauvreté, mais aussi à franchir le pas et aller à la rencontre des victimes de la misère dans votre quartier.
Dominique Dezonnet, merci. Bruno Tardieu, tous les outils sont à prendre finalement pour créer du lien.
Absolument, et on a utilisé aussi beaucoup Entourage, et on a beaucoup discuté avec Jean-Marc Poitvin pour que quand une situation injuste se passe quelque part, on puisse repérer les autres qui sont prêts à lutter contre. C'est vrai qu'il faut de l'entraide, c'est vrai qu'il faut de la rencontre, mais parfois il y a des combats, il y a des discriminations envers les gens pauvres, et que pouvoir repérer des militants dans son quartier, c'est très très important pour mener une action. Souvent quand on se sent seul devant une injustice, on n'ose pas bouger, mais quand on est trois ou quatre, on ose bouger, faire un petit comité, rétablir le droit, c'est fondamental.
Et ça fait la différence.
30e journée mondiale du refus de la misère.
J'ai l'impression d'être rien. Je suis trop différente et tout.
Bah vous êtes comme ça, et bah c'est pas grave. Vous n'avez pas à avoir honte d'être pauvre, vous n'avez pas à avoir honte de qui vous êtes.
Avec ATD Quart-Monde, agissons ensemble pour la dignité de tous.
Et on va se tourner à présent vers la Centrafrique avec notre invitée qui est à la fois une femme politique et une femme engagée dans la lutte contre la pauvreté. Bonjour Béatrice Epaille.
Bonjour.
Vous êtes députée centrafricaine, députée de la région de Markunda. Vous avez été également ministre. Vous êtes aussi la présidente de la fondation Voix du Cœur qui accueille les enfants des rues. Quel est son travail au juste au quotidien?
Ce que nous faisons, c'est d'accueillir ces enfants dans nos deux centres. Et de les accompagner pour l'éducation, de les soigner quand il le faut. Mais la finalité, c'est de les ramener dans la famille ou encore de leur trouver du travail. Pour le plus grand centre, nous avons une capacité d'accueil de 150 enfants par jour. Et surtout avec la crise, nous avons plus d'enfants qu'il le faut pour un petit centre. mais on arrive à faire des miracles. C'est des gouttes d'eau qui font la mer. Souvent, quand on arrive dans une famille, si c'est la famille directe de l'enfant, et on finance des activités génératrices de revenus, c'est des petits commerces, c'est des petites choses pour que la famille ait un revenu pour s'acheter les comprimés quand ils sont malades, pour acheter un cahier à un enfant. Et surtout, on accompagne l'enfant qui va à l'école et on lui dit, s'il n'y a pas à manger à la maison, revenez au centre manger. Et parfois, pour un repas par jour, l'enfant arrive à continuer l'école.
Vous évoquiez tout à l'heure la crise, en référence, j'imagine, à la crise de 2013, qui, évidemment, aujourd'hui n'est toujours pas résolue. On sait qu'une large portion du territoire centrafricain est encore occupée par des groupes armés. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça implique de lutter contre la pauvreté dans un pays en crise, dans un pays où la violence, l'insécurité peuvent surgir à tout instant?
C'est vrai que la misère tue, la misère est violence. Nous avons beaucoup de familles qui sont rentrées en brousse parce qu'ils ont fui les violences. Mais ces gens qui sont en brousse, si on ne va pas vers eux pour les ramener, pour les aider, mais ça sera un cycle et eux-mêmes, ils deviendront violents comme les autres.
Parce qu'une poussée de violence, une simple poussée de violence, quelques heures, peut détruire un travail de longue haleine, c'est ça?
C'est ça. Et tout ce qu'on peut faire avec ces populations, on peut les accompagner, mais il suffit qu'il y ait une violence. Tout s'écroule et on recommence. Et c'est ça le plus dur, le plus difficile, c'est ça.
Est-ce que vous voyez parmi les enfants auprès desquels vous travaillez, certains qui ont été peut-être tentés par les groupes armés, qui savent que quitter ce cercle de la violence eh bien, signifiera peut-être moins de ressources pour la famille?
On a des enfants qui n'étaient pas des enfants de la rue, qui étaient dans leur village, mais qui ont été enrôlés comme enfants soldats. Mais arrivés à Bangui, il y en a qui laissent tomber les armes et qui suivent les enfants dans la rue. Et cela arrive à la voix du cœur.
Est-ce que vous diriez, comme le faisait il y a quelque temps, hein, c'était en 2014, la maire de Bangui, Hyacinthe Wodobodé, que le conflit en Centrafrique, qui à l'époque était encore plus aigu peut-être qu'aujourd'hui, est un conflit de pauvreté avant autre chose?
Bon, il a raison, parce que tout est concentré sur Bangui. On a oublié l'intérieur du pays. Et ça, c'est la politique menée en Centrafrique qui a aussi amené ces conflits. Les parties du territoire qui sont lointaines ont été oubliées. S'il y a manque d'infrastructures, bon, on ne communique pas. Alors que nous avons une langue nationale. Et c'est rare en Afrique qu'il y ait une langue que tout le monde parle dans un pays.
Cette pauvreté, donc, dans les régions périphériques, hors de la capitale, qui, d'après vous, peut-être a contribué au conflit de 2013, que fait aujourd'hui le gouvernement centrafricain pour la réduire, pour en finir?
Voilà, ça, c'est une grande question, ça. Ici, en Centrafrique, il y a le gouvernement. Mais, comme je disais, c'est Bangui d'abord. Il serait souhaitable que l'administration revienne dans les provinces, que l'État soit présent et que les forces de sécurité accompagnent les fonctionnaires dans leurs fonctions et que la MINUSCA joue son rôle de maintien de la paix.
Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, je suis députée de Markunda, je suis députée indépendante, mais à Markunda, le seul fonctionnaire qui est là-bas, qui représente l'État, c'est le directeur de l'école. On a nommé des sous-préfets, on a nommé des gens, mais qui ne vont pas là-bas, puisqu'il y a des groupes armés qui sont encore présents.
Donc l'État s'est désengagé et la pauvreté s'enracine, en fait.
La pauvreté s'enracine, mais les gens ne baissent pas les bras. Moi, j'ai vu des gens qui ont fui, qui étaient en pleine brousse, mais ils sont partis avec des semences. Et quand ils sont ressortis avec des sacs d'arachide. Ils ont doublé même la production normale de leur village. Donc, effectivement, c'est vrai que la pauvreté est là, la misère est là. Il faut qu'on l'éradique, mais il faut compter avec les gens, les pauvres, parce que eux, ils ne baissent pas les bras.
C'est ce dont on parle finalement depuis le début de cette émission, hein, cette vision qui est aussi celle d'ATD Quart-Monde, non pas d'une forme de charité, mais plutôt d'une initiative de terrain, d'initiative individuelle.
Oui, c'est vrai que ce que nous faisons, ça rencontre vraiment les idéaux du fondateur de ATD Carmonde. S'il y a la misère, c'est que quelque part, il y a les violations des droits de l'homme. Il faut le droit à l'alimentation, il faut le droit à la santé, à l'éducation, etc. Donc, vraiment, nous sommes proches de ATD Carmonde dans ce que nous sommes en train de faire.
Comment est-ce que vous réagissez quand vous lisez que dans les objectifs de développement durable de l'ONU, on doit, d'ici 2030, ne laisser personne de côté?
Ça, c'est l'idéal. J'espère que ça va se faire. Mais il faut beaucoup d'investissements pour arriver là. Vous savez, moi, je suis côtoyée par la misère tous les jours. C'est difficile d'y arriver, mais on a l'espérance, on a l'espoir.
Quel est le message que vous auriez envie de transmettre peut-être à ceux qui nous écoutent ce matin à Bangui ou ailleurs en Centrafrique?
Mais c'est un message de solidarité envers les pauvres, envers ceux qui sont en détresse. C'est un message où je demande aux gens qui ont les armes de baisser leurs armes, de ramener la paix pour aider ceux qui sont dans la misère à rebondir.
Merci infiniment, Béatrice Epaille, d'avoir été avec nous en ligne de Bangui ce matin.
Merci beaucoup.
Béatrice Epaille, qui est donc députée centrafricaine, députée de la région de Markunda, ancienne ministre, présidente de la fondation La Voix du Cœur. Bruno Tardieu, vous souhaitez sans doute réagir à ce que vous venez d'entendre, à ce cas de la Centrafrique où, on l'a dit, violence et pauvreté s'entretiennent quasiment dans un cercle vicieux.
Oui, mais je voudrais aussi saluer Béatrice Epaille. On a vraiment la chance à ATD Carmonde d'être avec les gens très défavorisés, mais aussi d'être avec des alliés qui ont cette hauteur-là. Des Geneviève de Gaulle, des Javier Pérez de Cuellar, des Béatrice Epaille. Il y a une longue tradition, il y a une alliance possible entre les gens qui ont une conscience de l'humanité, qui ont une conscience du droit, comme elle le dit, et les très pauvres. Et Béatrice Epaille, pour moi, est l'image de cette alliance possible et nécessaire pour sortir de l'urgence et pour être dans le long terme. La République centrafricaine a été un pays qui le plus a poussé le mouvement ATD Carmonde à programmer à long terme. Et des gens en situation de pauvreté disaient « on a besoin de projeter vers l'avenir, on nous met tout le temps dans l'immédiat ». Ils ont créé une formation en alternance pour des jeunes qui ont fait bibliothèque de rue dans des conditions très difficiles pour devenir des médiateurs sociaux et culturels avec l'université. Ça, c'est le long terme. L'important, c'est de sortir de l'urgence et de rentrer dans le long terme. La misère est là depuis des millénaires. Arrêtons de dire qu'il faut vite se dépêcher parce que l'hiver arrive. Regardons à long terme. Cherchons à comprendre. Cherchons à connaître. C'est très important de connaître. On connaît très très mal la misère. Les institutions mesurent la misère de manière absolument superficielle.
Mais ça suppose, Bruno Tardieu, ce que vous dites, un investissement de l'État sur l'ensemble des territoires. On l'a entendu avec l'exemple de la Centrafrique. Mais c'est vrai dans plein d'autres pays. Voilà, une région favorisée aux dépens d'une autre, une région qui se meurt, une région qu'on développe, ça c'est aussi une réalité.
La misère en milieu rural est complètement ignorée, que ça soit aux États-Unis, aux Appalaches, que ça soit en France, dans les zones de Bretagne ou du Massif central où on est implanté. C'est extrêmement important de prendre toujours conscience de ce qu'on laisse de côté. Et en Centrafrique, Béatrice Epaille ne laisse pas tranquille le gouvernement avec cette question, mais je pense qu'il ne faut pas se laisser accaparer par certaines misères qui se voient et aller chercher les misères qui se cachent.
Je voudrais qu'on dise un petit mot, je vous ai interrompu, vous alliez le dire, j'en suis persuadée, sur la question de la mesure de la pauvreté, parce que c'est vrai que voilà, dans une émission comme ça, on aime donner des chiffres, affirmer que tant de pourcents de gens vivent avec tant ou que tant de pourcents d'une population est affectée par la pauvreté. Vous, votre souhait chez ATD, c'est de changer un peu la façon de mesurer la pauvreté, de pas avoir simplement une approche comptable, financière.
C'est-à-dire que c'est plus qu'un souhait, c'est un projet de recherche avec l'université d'Oxford, avec l'université d'Harvard, avec notre institut de recherche, parce que on a des alliés à la Banque mondiale qui nous disent que ce chiffre de 1,95$ par jour, c'est quand même été fait sur un coin de table. Et la pauvreté, ce n'est pas seulement monétaire, c'est tous les droits de l'homme, comme le disait Béatrice Epaille. Et on est en train de retravailler avec des experts internationaux d'économie et des gens en situation de pauvreté dans 8 pays du monde, dont la Tanzanie, dont le Bangladesh, mais aussi l'Angleterre et les États-Unis, la nature de la misère qui, au fond,
Et de même nature au nord et au sud. C'est ça la grande prise de conscience. On a fait croire aux pays du sud que nous, dans les pays du nord, on avait éradiqué la misère. C'est faux. Et donc, on doit se remettre à la table. On doit se remettre à comprendre que l'exclusion, la misère, ça porte beaucoup de dimensions. Et c'est des dimensions sur lesquelles on peut agir, chacun peut agir.
Merci beaucoup Bruno Tardieu d'avoir été avec nous ce matin, responsable chez ATD Quart Monde de la campagne internationale Stop Pauvreté. On va évidemment continuer à vivre ce 17 octobre toute la journée sur les antennes d'RFI, dans les magazines ce matin. Nouveau rendez-vous 13h30 avec Bruno Faure, 14h30 Charlotte Hydrac, et puis RFI Soir avec Guillaume Nodin entre 18h et 20h en direct de l'esplanade du Trocadéro. C'est là que Joseph Wrzinski avait inauguré la dalle en l'honneur des victimes de la misère. Merci à Didier Chérouse qui était à la réalisation, Christine Muratet, Frédéric Misselin à la rédaction en chef. Dans 5 minutes, une nouvelle édition du journal. Je vous rappelle qu'un mouvement de grève affecte aujourd'hui les antennes d'RFI. Cette émission s'arrête. On va se quitter en musique avec ce titre qui a été enregistré dans le monde entier. With my own two hands, je peux changer le monde.
D'ordre de grève, RFI n'est pas en mesure d'assurer son programme habituel. Veuillez nous en excuser. Appelez-nous.